Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal. Blaise Shindani Kambala à la présentation.
Neuf civils ont été tués tôt ce matin dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF dans un village du territoire de Lubero, au Nord Kivu. Selon des sources de la société civile locale, les assaillants ont investi le village vers 2h du matin avant de s'en prendre à la population. Les détails dans quelques instants. Dans la province de la Tchopo, la corporation des médecins décrète l'arrêt de travail pour 2 jours, ce lundi 13 et mardi 14 octobre courant. Il s'agit d'une protestation contre l'assassinat de certains des leurs dans le territoire d'Issangui. Renforcer la participation des femmes au développement du Kasaï oriental, c'est l'un des objectifs du réseau des femmes pour l'émergence du Congo Refeco qui vient d'installer son comité provincial à Mbujimayi. Pour en parler, nous recevons dans ce journal la présidente du conseil d'administration de cette structure, la révérende sœur Marguerite Calonde. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Au moins 19 civils ont été tués tôt ce lundi matin dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF à Katanga, Mukongo, un village du territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon des sources de la société civile, les assaillants ont investi le village vers 2h du matin avant de s'en prendre à la population. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, confirme ces informations et annonce que les FARDC ont pris des mesures pour protéger la population. Il s'exprime au téléphone de Martial Papimukeba.
C'était vers 2h du matin. Alors, il y a eu encore cette incursion des terroristes EDF. Ils ont encore meurtri notre population du territoire de Lubero. Dans le village Mukondo, dans la chefferie de Bassoa, ils ont pratiquement massacré. En ce moment où je vous parle, le bilan est pratiquement de 19 personnes qui ont été égorgées. Il y a des blessés aussi qui sont évacués dans le structure sanitaire le plus proche de lieu de massacre. Au niveau de Buyinga, qui est aussi l'une des agglomérations qui est dans la chefferie de Bassoa. Et il y a eu plusieurs maisons qui ont été incendiées également. Et puis, il y a eu des boutiques pillées et incendiées également. Il y a vraiment un déplacement massif de la population vers le lieu beaucoup plus sécurisé. Alors, les mesures prises actuellement, il y a déjà une opération de FARDC et IPDF sur le lieu.
Les activités socio-économiques sont paralysées depuis ce matin dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. À l'origine, une manifestation matinale de jeunes issus de mouvements citoyens et groupes de pression qui protestaient contre la persistance de l'insécurité dans les régions de Beni, Butembo et Lubero. Ils exigent également la récupération des entités encore sous occupation de la FCM23. Les forces de l'ordre ont été déployées pour lever les barricades et rétablir le calme. Marc Marofimbo pour les détails.
Les premiers incidents ont éclaté vers 4h du matin après des coups de feu attendus de la ville. Environ 50 manifestants partis de la commune de Rwenzori à l'est ont tenté de rallier Mulekera à l'ouest de Beni. Munis d'armes blanches, ils ont vandalisé des étalages, des cabines de vente, des crédits téléphoniques et des poteaux électriques. 3 civils ont été blessés, dont 2 manifestants et 1 passant. Des barricades ont été dressées dans plusieurs quartiers, notamment à Matongé, Ngongolio, Kasangatua et Mabolio, paralysant la circulation. École, boutiques et petits commerces sont restés fermés. De nombreux habitants n'ayant pas pu se rendre au travail. Des tracts annonçant 3 jours de manifestations circulaient déjà depuis la semaine dernière. Les jeunes dénoncent l'activisme des ADF et exigent la libération des zones occupées par le M23. Un calme relatif est revenu, mais la plupart des commerces restent fermés, sauf quelques officines pharmaceutiques. Une présence des forces de l'ordre est observée dans certains coins de la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Nord Kivu, toujours le combat opposant la rébellion AFC M23 aux combattants Wazalendo se poursuivent ce lundi dans plusieurs villages du groupement Bukombo en territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources dans la zone, ces combats ont repris avec une forte intensité dans les villages Machango et Kanyachi après d'autres accrochages signalés hier dimanche. Elles font état de plusieurs civils tués comme victimes collatérales alors que des centaines d'autres habitants sont contraints au déplacement. Des détails avec Alain Hirung.
Depuis 5 heures locales ce lundi matin, des fortes détonations sont entendues dans les villages de Machango, Kanyati et Kibwe dans le groupement Bukombo, chefferie de Bwito. Certaines sources parmi les notabilités locales parlent d'attaques simultanées des rebelles de la FCM-23 contre les positions du collectif des mouvements pour le changement CMC de Dominique Ndaroutse. Ces trois villages se vident de peu de leurs habitants qui y résistaient encore et qui s'orientent à présent vers Bukombo centre et d'autres villages voisins. Selon ces sources, les combats de ce lundi font suite à une série d'affrontements entre les deux groupes tout au long de la semaine dernière. C'est notamment dans plusieurs villages des groupements Bukombo et Tongo dans la même chefferie de Bwito. Au cours de ces combats, des dizaines de maisons d'habitation auraient été incendiées à Bouma et à Munguli, alors que plus d'une vingtaine de civils auraient été tués samedi 12 octobre à Ruza, groupement de Tongo, et à Mushababwe, groupement Bukombo. Ces tueries attribuées aux actes de répression des rebelles AFCM-23 reste à confirmer, estiment d'autres notables de la région. Les combats opposant l'AFCM-23 aux groupes armés locaux se sont généralisés tout ce week-end dans ces entités situées à cheval entre les territoires voisins de Masisi, Rutshuru et Walikale, s'inquiètent nos sources.
Dans la province de la Tchopo, le secrétariat exécutif provincial de l'Ordre des médecins décrète l'arrêt de travail pour 2 jours, c'est lundi 13 et mardi 14 octobre courant. Selon le docteur Alliance Tagoto, secrétaire exécutif provincial de cette corporation professionnelle médicale, il s'agit d'une protestation contre l'assassinat de leur confrère Placide Mbongi et 3 autres professionnels de santé non médecins dans les territoires d'Isangi. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukongole.
Il a été décidé que ce lundi 13 octobre, une marche pacifique de protestation devait être organisée et un arrêt de prestation durant 48 heures, c'est-à-dire les 13 et les 14 octobre. La marche pacifique n'a pas été autorisée par les autorités provinciales. C'est comme ça que, comme corporation, nous avons décidé de maintenir l'arrêt de prestation de services dans tous les établissements de soins publics au niveau de la province de la Tchopo, où il sera juste observé un service minimum uniquement pour les urgences. Tous les médecins sont appelés à observer 2 jours d'arrêt de service en signe de deuil, mais aussi en signe de protestation pour ce qui est arrivé à nos confrères. Un signal pour alerter les autorités d'améliorer les conditions de sécurité pour tous les professionnels de santé qui sont dans les zones rurales, mais aussi ceux qui sont dans les zones urbaines, qui soient sécurisés dans l'exercice de leur profession.
Voilà pourquoi les réactions continuent à tomber après l'assassinat la semaine dernière des médecins à Isangé par la communauté. L'Ordre des médecins du Maniema hausse les tons et condamne cet acte ignoble. Dans une délégation faite à votre radio vendredi 10 octobre, le président provincial interpelle le gouvernement congolais à bien sécuriser les médecins, que ce soit ceux qui vont à l'intérieur, que ceux qui travaillent en ville. Docteur Charles Omesumurokale exhorte la population au respect du personnel médical. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous, médecins du Maniema, nous condamnons avec la dernière énergie l'assassinat crapuleux de notre collègue docteur Placide Mbongi Pangalala, qui a été tué de manière atroce à Isangi alors qu'il était en mission officielle. Mais aussi nous demandons une prise en charge conséquente de la famille du docteur Placide, qui était le pilier pratiquement, avec une indemnisation conséquente, mais aussi que ses émoluments, son salaire et sa prime de risque soient rendus pérennes au moins pour une durée de 25 ans pour permettre à cette famille de prendre en charge des enfants qui sont encore à bas âge. Nous demandons aussi à toutes les autorités politico-administratives de sécuriser tous les missionnaires qui vont à l'intérieur du pays et même ceux qui travaillent ici dans les villes, parce que c'est pas le premier cas d'agression sur des médecins. Nous demandons à toute la population de respecter le personnel médical et de ne pas agir avec des extrémités comme le cas de la population d'Isangi.
Par ailleurs, au Kasaï oriental, il est strictement interdit d'étaler ou vendre les aliments destinés à la consommation humaine au sol. Cette décision est contenue dans un arrêté provincial signé la semaine dernière par le ministère provincial de la Santé. Les services provinciaux chargés de l'hygiène publique et les autorités locales sont invités à faire appliquer cette disposition. Des explications avec Esther Dalafina.
Selon l'arrêté du ministre provincial de la Santé, l'exposition et la vente d'aliments destinés à la consommation humaine constituent un facteur de contamination des maladies, entre autres des agents microbiens, des métaux lourds, des poussières et de la boue. Pour Dr. Daniel Kazadi, l'exposition et la vente d'aliments doivent se réaliser uniquement sur des supports propres, surélevés et conformes aux prescriptions d'hygiène alimentaire.
Disons en fait la vente des aliments est étalée au sol, parce que si nous devons lutter contre ces maladies, ou notamment le choléra, nous devons nous-mêmes, déjà dès la vente, vendre quelque chose qui est en fait de qualité.
Selon l'arrêté provincial, tout contrevenant est passible d'une amende administrative, de la saisie et de la destruction immédiate des produits jugés impropres, ainsi que des poursuites judiciaires. Rappelons que l'exposition et la vente des aliments destinés à la consommation s'observent au grand marché Bakwadianga, à quelques mètres du rond-point de l'étoile sur l'avenue Kalonji jusqu'au dépôt des ventes de poissons salés et fumés. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Comment prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre dans une région post-conflit? Comment leur offrir un accompagnement médical, juridique et psychosocial tout en luttant contre les inégalités et en proposant une réponse globale? Pour répondre à ces défis, le Fonds des Nations Unies pour la population a soutenu la création du Centre intégré des services multisectoriels. Ce centre, à vocation provinciale, accueille les cas de violences référés par les structures locales. Depuis son ouverture au sein de l'hôpital général de Kalemie, le centre reçoit en moyenne une trentaine de patients par mois. Docteur Lina Basika, médecin responsable du centre, revient sur les modalités de prise en charge au micro de Blaise Makasinandes.
Nous prenons en charge toutes sortes de VBG ainsi que les pathologies gynécologiques invalidantes, entre autres les fistules obstétricales et les prolapsus utérins. Et les malades qui nous arrivent, ils entrent en premier lieu par le pilier psychosocial, ils sont écoutés par les APS et puis ils orientent les cas selon les besoins du malade. Parce que tout cas de VBG n'ont pas les mêmes besoins et nous avons la prise en charge qui est centrée sur la survivance et des violences sexuelles. Orienter en premier lieu vers le médical. Si le survivant ou la survivante a un besoin de prise en charge médicale, soit c'est le psychosocial, ou soit c'est le juridique ou la réinsertion. Dans ce cas, ils reçoivent les médicaments, une hospitalisation, une restauration, des transports de retour, les kits de dignité. Et depuis que nous avons commencé, les centres vraiment fréquents, nous recevons des malades qui viennent de partout avec leurs fiches de référence.
À Matadi, au Congo central, avant d'aller plus loin, le commissaire provincial intérimaire de la police nationale congolaise s'en vante à guerre contre la corruption ainsi que la prise d'alcool pendant les heures de service dont font montre certains policiers des circulations routières. C'est lundi, au cours d'une parade avec les cadres et éléments de la PSR garnison de Matadi, le commissaire supérieur principal Ado Baoundoua a dit avoir remarqué un relâchement et une grande négligence au sein de ce service. Le point avec Nana Plurich Mambo.
Au cours de cette causerie morale, le commissaire provincial ad intérim de la police du Congo central a appelé les policiers commis à la circulation routière à faire preuve de discipline. Celle-ci s'est traduite selon lui sur terrain, notamment par la façon d'aborder les usagers de la route, de faire respecter les codes de la route en réprimant les contraventions ainsi qu'à la prévention des accidents routiers. Mais d'après les responsables de la police, les constats sur terrain est très désolant. Commissaire supérieur principal Ado Baoundoua.
Il s'observe un embouteillage monstre dans la ville de Matadi. C'est comme s'il y a un relâchement. Il y a de ces policiers-là qui se mettent à l'écart pour aller prendre soit une bière. C'est cette pratique-là que nous décrions. Et il y a aussi cette façon d'aborder un usager de la route. La courtoisie a été toujours exigée. Ça montre aussi une partie de la discipline.
Face à ces relâchements, le commissaire provincial prend comme mesure la permutation des éléments des PSR basés dans les différents carrefours de Matadi et les renforcements du groupe PSR par d'autres forces militaro-policières.
Il a aussi fait comprendre à ses hommes des troupes que les contrôles des nouveaux permis de conduire n'a pas encore commencé au Congo central. Matadi, Nana Plus Riche Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, la pénurie d'essence empire dans tous les pays, y compris à Bamako. L'ennemi lié à Al-Qaïda impose depuis début septembre un embargo sur les importations de carburant, attaquant les camions citernes qui circulent sur les routes maliennes. La semaine dernière, la pénurie a gagné la capitale Bamako et, en dépit des escortes militaires mises en place pour sécuriser les convois de ravitaillement, la situation continue de se dégrader.
L'invité.
Notre invité est la révérende sœur Marguerite Kalonde, présidente du conseil d'administration du réseau des femmes pour l'émergence du Congo, REFECO. Elle s'exprime sur l'installation le week-end dernier à Mbujima au Kasaï oriental des membres du comité provincial de cette structure. Quels sont les objectifs de cette structure et que peut-elle apporter dans l'autonomisation et le développement des femmes au Kasaï oriental? Sœur Marguerite Kalonde répond aux questions d'Esther Ndalafina.
Bonjour, sœur Marguerite Kalonde.
Bonjour, maman journaliste.
Les membres du réseau des femmes pour l'émergence du Congo, REFECO, viennent d'être installés ici en Mbujimayi, donc une antenne provinciale. C'est quoi même le REFECO, ma sœur?
Merci beaucoup, maman la journaliste. REFECO, c'est un réseau des femmes pour l'émergence du Congo, donc REFECO en cycle.
Quel est l'objectif de cette structure des femmes?
Autrefois, la femme travaillait seule et il n'y avait aucun impact. C'est-à-dire, elle ne réussissait pas ce qu'elle faisait. Nous nous sommes mises ensemble, nous avons commencé à réfléchir. Pourquoi est-ce que la femme ne va pas de l'avant? Il n'y a aucune visibilité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme on a toujours dit, l'union fait la force. Si on travaille ensemble, la chose devient facile et simple, et possible aussi. Une vingtaine de femmes, nous avons commencé à réfléchir, et nous avons trouvé qu'il fallait monter un réseau pour que nous puissions répertorier toutes les petites associations des mamans, pour les regrouper, les mettre ensemble et inventorier leur domaine d'intervention et les encadrer. C'était avant les idées, maintenant ce sont les actions. C'est tout un méga plateforme que vous voyez aujourd'hui là. Nous sommes installés dans 11 provinces au niveau de la République et je suis venu ici chez vous, dans les Kasaï orientales, pour installer ces comités provinciaux.
Quels sont les domaines dans lesquels REFECO encadre les structures des femmes?
C'est-à-dire, nous avons d'abord répertorié toutes les activités que font les mamans. Après ça, nous avons trouvé que c'était presque les mêmes activités. Nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'élevage, la transformation, la commercialisation, la santé, l'éducation et la prise en charge des marginalisés. Donc, les femmes sont en train de sensibiliser même dans les domaines de la santé sur la maladie à virus d'Ebola. Elles sensibilisent dans les écoles, dans les marchés, sans aucun moyen. C'est la raison qui va me pousser aussi à demander vraiment à nos autorités pour qu'ils puissent nous soutenir. Nous sommes un peu limités. Nous ne pouvons rien nous-mêmes. Nous avons cette volonté-là. Nous voulons travailler. Nous voulons développer nos provinces respectives. Mais il faut alors un soutien quelconque, en commençant par les soutiens moraux, les soutiens matériels et surtout aussi financiers. Dans les domaines de l'agriculture, par exemple, chez nous ici, nous voulons vraiment valoriser la chaîne alimentaire là. C'est-à-dire à partir de la production jusqu'à la commercialisation.
Avez-vous des experts qui peuvent encadrer les femmes dans l'agriculture et dans différents domaines?
Nous avons vraiment les femmes dynamiques. Nous avons vraiment les experts dans tous les domaines.
Il n'y a que des femmes.
Oui.
Où sont les hommes? Vous avez dit que nous prenons les genres. Mais comment se fait-il que le comité est composé juste des femmes?
Ce ne sont pas seulement les femmes. Même si la dénomination c'est Réseau des femmes pour l'émergence du Congo. Mais nous appliquons les genres, c'est-à-dire il y a aussi les hommes.
Qu'est-ce que vous attendez de ce comité provincial?
Le comité provincial du Kasaï oriental, comme je l'ai dit dans mon discours, doit faire tout pour étendre les réseaux dans les 5 territoires. Ils doivent aussi faire tout pour faire adhérer aussi les hommes. Oui, maman, la journaliste, si vous avez bien suivi dans mon discours, je l'ai souligné. J'ai demandé vraiment aux mamans de faire adhérer aussi les hommes. Nous devons travailler avec les hommes. Les hommes, ce sont nos partenaires. Nous devons travailler ensemble, main dans la main. Nous les attendons qu'ils viennent adhérer. Ces femmes ici que vous voyez, elles sont venues à Kinshasa au mois de mai pour la première assemblée générale. Elles ont utilisé leurs propres moyens. Elles se sont payées les billets d'avion, elles sont venues. Et nous étions internés là-bas pour la première assemblée générale. Et ça s'est très bien passé. Si vous voyez le dévouement de ces mamans-là, en tout cas, c'est fantastique.
Sœur Marguerite Kalonda, merci.
C'est moi qui vous remercie, maman.
C'était notre invitée, la révérende sœur Marguerite Kalonda, qui s'entretenait avec Esther Ndalafina. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Vespéral, coordonnée par Vicky Odiambala, supervisée par Polly Mouzalia. Alain Goy, la mise en onde. Vous pouvez encore le réécouter sur toutes nos plateformes numériques, ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.